Asie présente Ne coupez jamais la poire en deux, un manuel redoutable pour négocier gagnant par un négociateur du FBI. De Chris Voss, avec Tahal Raz, lu par Olivier Cuvelier. À mes parents, qui m'ont donné tout leur amour et m'ont transmis les valeurs d'effort et d'intégrité. Chapitre 1 : Les nouvelles règles du jeu. J'étais tétanisé. Cela faisait plus de 20 ans que je travaillais pour le FBI, dont 15 années comme négociateur lors de prises d'otages à New York, aux Philippines ou au Moyen-Orient, et j'étais au sommet de mon art. Si 10 000 agents du FBI sont constamment en activité, il n'existait qu'un seul négociateur international pour les kidnappings. C'était moi. Pourtant, je n'avais jamais connu de prise d'otage aussi tendue, avec des enjeux aussi personnels. « On tient votre fils, Voss. Donnez-nous $1 million ou il mourra. » Marquez un temps d'arrêt. Clignez des yeux. Ramenez les battements du cœur à un rythme normal. Bien sûr, je m'étais déjà trouvé dans ce genre de situation. Souvent même. De l'argent en échange d'une vie. Mais pas de cette façon. Pas avec mon fils dans la balance. Pas contre $1 million. Et pas face à des gens qui possédaient de beaux diplômes et une longue expérience dans l'art de la négociation. Voyez-vous, mes interlocuteurs étaient professeurs de négociation à la Harvard Law School. J'étais venu à Harvard pour suivre un cours de négociation destiné à des cadres. Je voulais voir si j'aurais quelque chose à apprendre du monde de l'entreprise. C'était censé être une expérience calme et sans histoire. Un petit bonus professionnel pour un type du FBI qui cherche à élargir son horizon. Quand Robert Mnookin, le directeur du Harvard Negotiation Research Project, apprit que j'étais sur le campus, il m'invita à prendre un café dans son bureau. « Juste pour discuter », me dit-il. J'étais honoré et effrayé. Mnookin est quelqu'un d'impressionnant et je le suivais depuis des années. Non seulement il est professeur de droit à Harvard, mais c'est aussi l'un des plus grands pontes dans le domaine de la résolution de conflits et l'auteur de « Bargaining with the Devil »,« When to negotiate, when to fight ». Honnêtement, ça semblait assez injuste que Mnookin ait envie de parler de négociation avec moi, un ancien agent de police de Kansas City. Mais c'est ensuite que les choses empirèrent. Dès que Mnookin et moi fûmes assis, la porte s'ouvrit et une autre professeure de Harvard entra. Il s'agissait de Gabriella Bloom, une spécialiste des négociations internationales, des conflits armés et du contre-terrorisme. Pendant 8 ans, elle avait été négociatrice pour le Conseil de sécurité nationale israélien et l'armée de défense israélienne, les durs à cuire de Tsahal. Au même moment, la secrétaire de Mnookin arriva et posa un enregistreur sur la table. Mnookin et Bloom m'adressèrent un sourire. Je m'étais fait avoir. On tient votre fils, Voss. Donnez-nous $1 million ou il mourra, lança Mnookin en souriant. Je suis le ravisseur. Que comptez-vous faire? Je connus un bref moment de panique, mais c'était prévisible. Même après 2 décennies passées à négocier pour sauver des vies humaines, la peur est toujours présente. Même dans des jeux de rôle. Je me calmais. Bien sûr, moi, le simple policier de terrain, j'étais devenu cet agent du FBI qui était en train de jouer contre de vrais poids lourds. Et je n'étais pas un génie. Mais je me trouvais dans cette pièce pour une bonne raison. Au fil des ans, j'avais développé des compétences, des tactiques et une approche globale des interactions humaines qui ne m'avait pas seulement aidé à sauver des vies, mais, comme je le constate désormais, si je regarde en arrière, avait aussi commencé à changer ma propre vie. Ces années passées à négocier avaient eu une influence sur toute mon existence, de ma façon de traiter les chargés de clientèle à l'éducation que je donnais à mes enfants. « Allez, apporte-moi l'argent ou je tranche la gorge de ton fils sur le champ !» poursuivit Mnookin d'un ton sec. Je lui adressai un long regard. Puis, je souris. Comment faire ? Mnookin marqua une pause. Son visage affichait une expression de pitié amusée, comme un chien qui verrait le chat qu'il chassait faire demi-tour pour essayer de le poursuivre à son tour. C'était comme si nous jouions à deux jeux différents, aux règles différentes. Mnookin se reprit et me fixa, les sourcils froncés, comme pour me rappeler que la partie continuait. « Donc ça ne vous dérange pas que je tue votre fils, monsieur Voss ?»« Je suis désolé, Robert, mais je ne sais même pas s'il est en vie, » répondis-je. J'utilisai une formule d'excuse et son prénom, introduisant un ton chaleureux dans la conversation afin de compliquer ses manœuvres d'intimidation. « Je suis vraiment désolé, » répétai-je. « Mais comment pourrais-je vous apporter de l'argent, surtout $1 million, alors que je ne sais même pas s'il est en vie ?» Qu'un homme aussi brillant soit ébranlé par de telles inepties, ça valait vraiment le coup d'œil. Mais en vérité, mon discours était tout sauf idiot. J'avais recours à ce qui était devenu l'un des outils de négociation les plus puissants du FBI. La question ouverte. Après quelques années passées à faire évoluer cette tactique pour le secteur privé dans le cadre de mon cabinet de conseil, le Black Swan Group, nous l'appelons désormais la tactique des questions calibrées. Des demandes auxquelles l'autre partie peut répondre, mais qui n'ont pas de réponse déterminée. Cela vous fait gagner du temps. Cela donne à votre interlocuteur l'illusion du contrôle. Après tout, c'est lui qui possède les réponses et le pouvoir, sans jamais soupçonner les limites que lui imposent ses questions. Comme on pouvait s'y attendre, Mnookin commença à bredouiller, parce que le cadre de la conversation avait dévié. Désormais, il ne s'agissait plus de savoir comment j'allais répondre à la menace sur la vie de mon fils, mais de déterminer comment le professeur pouvait gérer les problèmes logistiques impliqués par la recherche d'argent.
Comment il pouvait résoudre mes problèmes ?
En réponse à chaque menace et à chaque exigence qu'il formulait, je continuais à lui demander comment j'étais censé le payer et comment je pouvais être sûr que mon fils était en vie. Au bout de quelques minutes, Gabriella intervint. « Ne le laisse pas jouer à ça avec toi, » dit-elle à Mnookin. « Ok, alors maintenant c'est toi qui essaie, » dit-il, jetant l'éponge. Bloom fonça. Elle avait été endurcie par ses années passées au Moyen-Orient, mais elle pratiquait quand même la tactique du bulldozer. Et tout ce qu'elle obtint en retour, ce furent encore et toujours les mêmes questions. Mnookin revint dans la conversation, mais n'en tira rien non plus. Il rougit. La frustration se lisait sur son visage. Je devinais que l'irritation l'empêchait de penser clairement. « Ok, ok, Bob, on va s'arrêter là, » lui dis-je, le tirant d'affaire. Il acquiesça. Mon fils était sauvé. « Bien, » dit-il, « je suppose que le FBI pourrait avoir quelque chose à nous enseigner. » Je n'avais pas simplement tenu bon face à deux des principales figures de Harvard. J'avais affronté les meilleurs parmi les meilleurs, et j'avais gagné. S'agissait-il d'un simple coup de chance ? Depuis plus de 3 décennies, Harvard avait été l'épicentre mondial de la théorie et de la pratique de la négociation. Moi, tout ce que je savais des techniques que l'on utilisait au sein du FBI, c'est qu'elles fonctionnaient. Au cours de mes 20 années au bureau, nous avions conçu un système qui nous avait permis de résoudre presque tous les cas de kidnapping auxquels nous l'avions appliqué. Mais nous ne disposions d'aucune grande théorie. Nos techniques avaient été forgées par l'expérience. Elles avaient été développées par des agents de terrain, négociant pendant des crises et partageant le récit de ce qui avait marché ou non. C'était un processus itératif, pas intellectuel. Dans la mesure où nous affinions jour après jour les outils dont nous nous servions. Et il y avait urgence. Nos outils devaient fonctionner, parce que, dans le cas contraire, quelqu'un mourrait. Pourquoi ces outils étaient-ils efficaces ? Voilà la question qui m'avait conduit dans ce bureau, à Harvard, en présence de Mnookin et de Bloom. En dehors de mon petit univers, je manquais de confiance. Et surtout, j'avais besoin d'expliciter mes connaissances et d'apprendre comment les associer aux leurs. Et clairement, ils en avaient, pour pouvoir les comprendre, les systématiser et les accroître.